Une nouvelle semaine de questions d'actualité format estival, encore trois, donc plutôt encore trois en incluant celle-ci. On se retrouvera pour le monde d'aujourd'hui pour une nouvelle année, mais d'ici là, c'est encore plein de petites chroniques et dont la chronique politique de Guillaume Rousseau. Bonjour Guillaume.
Bonjour Julien.
Je sais que tu voulais revenir aujourd'hui sur les différents slogans. Ça a été assez de la campagne électorale parce qu'on approche du déclenchement des élections qui sera normalement cette fin de semaine. Quand même assez drôle, il y a eu un échange cette fin de semaine sur Twitter où une ancienne attachée, une ancienne employée politique de Bernard Draville, Florence Plourde, qui s'occupe des communications à la CAQ, donc une ancienne du PQ, comme une grande majorité de personnes à la CAQ, qui s'en prend au slogan du Parti libéral « Votez vrai » et du Parti québécois, le Québec pour vrai, Québec qui s'assume pour de vrai, disant que ces deux vieux partis choisissent les mêmes slogans alors que la CAQ choisit un slogan d'inscription dans la continuité, continuant, slogan qui lui-même a été critiqué comme étant duplessiste. Et on voit un peu cet agglutinement de querelles sur des slogans politiques alors que normalement c'est pas la chose qui intéresse le plus. Mais qu'est-ce que ça te fait dire sur tout ce qui se passe en ce moment?
Donc, ça fait dire que ça sera peut-être une campagne plus enlevante qu'on pensait, hein, parce que bon, c'est sûr qu'avec une avance pour la CAQ, on se dit, bon, finalement, tout est joué, ça sera peut-être pas la campagne la plus excitante de l'histoire, quoique toute la question de qui arrivera deuxième, dans quelle région, dans quelle proportion, est quand même pas inintéressante, puis savoir à la CAQ risque de l'emporter, mais est-ce qu'il y aura un moment où il y aura une petite baisse, puis on pourra envisager un gouvernement minoritaire, fait qu'il reste quand même des éléments de suspense, mais malgré ça, bon, c'est une élection dont la conclusion est peut-être plus prévisible que d'autres. Mais malgré ça, on sent que les partis sont sur les dents, on sent qu'il y a vraiment une volonté. Certains, beaucoup, jouent leur survie, donc c'est peut-être là des éléments là, de nervosité. Puis effectivement, donc, il y a ce débat donc autour des slogans. Puis effectivement, bon, Mme Plourde, on peut ou pas apprécier son parcours, mais c'est sûr que le fait que et le Parti québécois et le Parti libéral misent sur la vérité, je pense qu'on plusieurs l'ont remarqué. Alors, c'était facile pour la CAQ de dire, voilà, les deux vieux partis qui ont des slogans semblables, mais je pense qu'il y a d'autres éléments sous-entendus par les slogans qui sont quand même différents.
Et la CAQ aussi, de son côté, aussi s'est fait peut reprendre sur son slogan qui, pour beaucoup, un peu sur les internets, disent que ça fait appel un peu à ces ambitions duplessis, continuant, inscrivant, afin de continuer le succès, Élisée Maurice Duplessis. Donc, on fait des montages avec le logo, avec le mot continuant, comparé par exemple à Québec solidaire, qui utilise un véritable slogan de rupture, changer d'air, avec aussi un motif électoral que certains s'amusaient à dépeindre pour être qui inspirait le Parti communiste et d'autres éléments, quand on voyait un peu différents montages, dont Jean-François Lisée, qui s'est amusé avec ça. Mais on voit un peu, du fait de l'inscription médiatique, l'utilisation médiatique qui peut être faite de ces slogans, et aussi même l'activité politique et médiatique qu'il y a en arrière de ces descriptions et révélations de slogans, ça monte une campagne qui va être extrêmement intéressante sur l'utilisation des médias et la présence dans le discours grâce à tous ces moyens et grâce à tous ces discours.
Oui, effectivement. Je pense que ça révèle que les réseaux sociaux vont jouer un rôle important. Évidemment, c'est le cas en 2018, en 2014. C'est le cas à peu près depuis 2012. Ouais. Mais, donc, depuis que Twitter est plus utilisé. Mais j'ai l'impression que c'est encore peut-être plus fort cette année. Peut-être le fait qu'il y a 5 partis avec chacun leurs partisans sur les réseaux sociaux. Donc, différents facteurs font qu'on va beaucoup voir ça. Puis, ce qui est intéressant, c'est que, bon, il y a les classiques, là, c'est-à-dire le partisan d'un parti qui fait la promotion de son parti ou qui en attaque un autre. Mais là, tout le côté mime, toutes les mèmes, tout ce qui est le côté humoristique. Donc ça, je trouve ça intéressant. Ça ajoute, je pense, une couche en termes de forme. Ça ajoute quelque chose d'original. Puis effectivement, puis sur le fond, c'est pas dénudé complètement de tout sens, hein, parce qu'effectivement, donc le gouvernement Legault, autonomiste, nationaliste, bon, qui effectivement veut se faire réélire, continuons comme slogan. Puis c'est vrai que ça rappelle un peu Maurice Duplessis avec l'Union nationale là, qui avait comme slogan en 52, donc aussi pour une réélection, une deuxième, mais quand même on est dans un contexte à certains égards semblable, donc c'était, je pense, laissons Duplessis continuer son œuvre. Donc le clin d'œil est évident, puis c'est pas complètement diminué. Après ça, il y a plein de différences évidemment entre la CAQ et l'Union nationale de l'époque, mais c'est pas complètement dénudé de fondement de faire ce rapprochement-là. Même chose pour l'affiche de Québec solidaire avec cette ce style un petit peu soviétique là, ou maoïste. C'est pas complètement dénudé encore là, c'est vrai. Là, esthétiquement parlant, il y a un vrai rapprochement. Est-ce que c'était voulu ou pas, on le sait pas. Puis quand on regarde là, le programme de Québec solidaire avec beaucoup de nationalisation en 2018, Manon Massé là, qui disait qu'elle voulait que son parti était marxiste. Donc, c'est pas complètement dénudé de tout fondement non plus. Fait que c'est, autrement dit, c'est fun de voir comment certaines personnes vont utiliser les réseaux sociaux, puis l'humour un peu, puis les mèmes et tout, pour pointer des choses qui, sur le fond, peuvent être exagérées, il y a des limites, mais qui, sur le fond, sont pas complètement dénudées. Fait que peut-être qu'au-delà de la forme, il y a le fond qui remonte à la surface.
Et sur aussi un autre de discours, on a un retour un peu à un slogan assez couillardien, avec voter vrai, les vraies affaires du côté PLQ, mais c'est aussi du côté PCQ, un slogan libre chez nous, quand on sait qu'est-ce que ça veut dire, l'implication, et quand on sait l'application de ce slogan, de ce discours, surtout Révolution tranquille, nationaliste québécois et autres, quand on voit aussi le programme du PCQ qui est antinationaliste, comme tu l'expliquais la semaine dernière, qui est, et c'est un peu, on utilise ce libre chez nous, on le dénationalise pour le transformer sur un aspect beaucoup plus libertarien, une réappropriation du discours. C'est quand même extrêmement intéressant.
Oui, là, c'est effectivement beaucoup plus subversif parce que non seulement le gouvernement Lesage était nationaliste, mais aussi étatiste. D'ailleurs, c'était l'étatisation de l'hydroélectricité, alors que le Parti conservateur de M. Duhem est à la fois antinationaliste, anti-étatiste et reprend quand même le chez-nous et en change complètement de sens. Mettre chez-nous, c'était beaucoup plus collectif, alors que libre chez-nous, c'est comme libre chacun chez soi, c'est dans sa maison. Donc, on est vraiment ailleurs. Donc, c'est un revirement complet, donc une espèce de renoncement. Certains diraient trahison d'héritage de la Révolution tranquille, mais avec une réappropriation ou du moins un clin d'œil au vocabulaire de la Révolution tranquille. Fait que c'est intéressant, mais en même temps, je pense que ça a ses limites. Là.
Et sur une autre question aussi très intéressante, c'est qu'on voit aujourd'hui, au niveau des financements électoraux, tout ce qui a pu être annoncé en matière de financement électoral, le PLQ qui était le champion du grand financement électoral, même à la dernière élection, alors que le sondage indiquait plusieurs semaines avant l'élection que la CAQ était pour l'emporter, c'était serré au fur et à mesure de la campagne, ils construisaient une avance plus importante. Mais là, cette fois-ci, avant l'élection, avant le déclenchement de l'élection, le PLQ est bon dernier dans le financement électoral. Ça ne s'est jamais vu en plusieurs dizaines d'années, c'est quand même assez incroyable.
Oui, effectivement, donc revirement total de situation. Puis je pense que ça, c'est forcément un peu la responsabilité ultimement de Dominique Anglade avec son virage à gauche nationaliste et ensuite plutôt à droite antinationaliste. Tout ça, je pense, a déstabilisé sa base. Elle a tenté de l'élargir, ça n'a pas fonctionné. Ça a aliéné une partie de sa base et ça nuit toujours au financement. Donc je pense que c'est le résultat direct de ces différents virages contradictoires là, qui explique ce très mauvais financement pour le PLQ. Et de manière générale, bien évidemment, les mauvais sondages, alors que c'est un parti de pouvoir.
C'est ça,
beaucoup
un parti
de gens qui était proche du Parti libéral n'était pas nécessairement tant pour ses idées que pour la proximité du pouvoir, et là, on en est loin.
Est-ce qu'on peut aussi parler un peu de tout le milieu affariste qui avait l'habitude du fait parti naturel de gouvernement donner au PLQ, car il savait que ça allait probablement donner des bénéfices, étant donné que le PLQ avait de grandes chances d'être au pouvoir, étant donné que maintenant, c'est plus la CAQ qui a récupéré ce créneau-là. Est-ce qu'on a eu possiblement aussi une migration de ces donateurs du côté de la CAQ, car la CAQ a pris la place du PLQ à ce niveau?
Oui, ben surtout en région, hein, le fameux réseau là, des chambres de commerce en région, je pense que au niveau des entrepreneurs et tout, il y en a une bonne partie qui finançait autrefois le PLQ et qui finance aujourd'hui la CAQ, là, ça m'apparaît fort probable.
Ouais.
Donc effectivement, c'est tout le traîneau nationaliste et fort sur l'économie qui a pu être celui du Parti libéral Robert Bourassa, qui est récupéré par la CAQ, puis avec ça vient une partie de l'électorat et la possibilité donc d'aller chercher du financement.
Et parlons de la CAQ, on a aussi Marie-Ève Proulx aujourd'hui qui retire sa candidature pour plainte contre harcèlement. Il y a plusieurs plaintes qui ont été données contre elle. Elle a souvent été défendue, tout le temps même été défendue par M. Legault, jusqu'à aujourd'hui où, si, façon de parler, quand on retire sa candidature, souvent, il y a aussi des pressions qui viennent de l'arrière. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de polémique? Est-ce que ça peut nuire à la CAQ? On est assez avancé dans la campagne, dans la solidification des opinions des électeurs pour que ça serve à quelque chose.
Ben là, on verra les suites, hein. Ça vient toujours d'arriver. Donc, on verra peut-être davantage la réaction de Mme Proulx. On essaiera d'en savoir plus dans les prochains jours. Mais a priori, ça semble plutôt bien géré dans le sens où M. Legault l'a appuyé, mais finalement, peut-être que par en arrière, il a fait savoir que ce serait préférable qu'elle se retire. Si je comprends bien, elle accepte de se retirer. Donc, ça semble être plutôt bien géré. Si on compare ça à la gestion du cas de Mme Montpetit, députée de Maurice Richard, là, par Dominique Anglade, où la chef l'avait laissé tomber, puis là, elle s'était un peu, à quelque part, rebellée contre son ancien parti. Elle a même voté pour la loi 96 alors que les libéraux étaient contre. Donc, bref, ça avait été très mal géré du côté de Dominique Anglade avec des problèmes à certains égards comparables pour Mme Montpetit. Ouais. Alors que là, ici, ça semble plutôt bien géré. C'est-à-dire que M. Legault a à la fois l'air de ne pas avoir laissé tomber trop rapidement son monde, qui des fois peut voilà, au niveau du moral des troupes et tout, c'est bon de savoir que le chef ne laisse pas tomber la première allégation. Mais en même temps, si elle était restée, ça aurait pu revenir en campagne. Si la question du harcèlement s'est imposée.
La boule puante qui revient.
Exactement. Donc, ça aurait pu revenir en campagne, là, dans s'en débarrasser juste avant le début de la campagne. Disons que le timing n'est pas mauvais.
Le timing n'est pas mauvais. Ça a été un peu, ça a été géré quand même assez de manière discrète. Il n'y a pas eu de polémique ou de relance à la suite, par exemple, de sa défense, de la défense de M. Legault la semaine dernière et même de son départ ce matin. Ça a fait les titres, mais pour vous le dire, par exemple, en tant qu'éditeur pour le Journal de Montréal ou pour le Web, ça a fait les titres, mais façon de parler, il n'y a pas eu de menace. Ça n'intéressait pas énormément les gens. Ce qui intéressait plus, c'était plus les propositions et les propositions qui ont été présentées dans les derniers jours. On peut même revenir sur ce point-là. Les propositions présentées dans les derniers jours, beaucoup d'éléments. On parlait, par exemple, avec les mimes, l'Internet, courtiser les jeunes à ce niveau-là. Et en ce moment, on voit une utilisation de l'environnement et de l'économie environnementale, on va dire l'économie intégrée dans la perspective de la protection de l'environnement pour courtiser les jeunes à aller voter, qui peuvent constituer une nouvelle base électorale forte pour les partis. Il y a eu un excellent débat la semaine dernière organisé par Le Devoir. Aujourd'hui, on a le PQ qui propose un pass à 335 $, un pass illimité transport en commun à 335 $ par an. Qu'est-ce que tu penses de ces propositions et de cette utilisation de l'environnement? Est-ce que c'est normal que ça va faire partie de la campagne à un niveau assez fort, mais est-ce que tu penses que ça peut motiver encore plus les jeunes à aller voter quand on sait leur manque de motivation à aller voter? Ils sont impliqués dans le choix des idées, mais le jour du vote, ils ne sont pas souvent le plus là.
Bon, ben, traditionnellement, on disait que l'environnement, c'est un enjeu qui avait un appui de 1 km de large, mais 1 mm de profond. En ce sens que tout le monde est pour l'environnement, tous les partis, tous les citoyens. Mais finalement, quand vient le temps de voter, on ne vote pas en fonction de cet enjeu-là. C'est moins vrai aujourd'hui. On sait qu'au fédéral, les conservateurs, ça leur a nuit à au moins une ou deux élections là, qu'avoir une position plus faible sur l'environnement. Donc, c'est probablement moins vrai qu'avant, mais c'est aussi vrai que ça semble toucher plus les jeunes. Or, les jeunes vont moins voter. Donc, jusqu'à quel point c'est stratégique d'en faire une première priorité, pour le dire comme ça, ça reste à voir. Là, on voit que le PQ, effectivement, tente d'en faire à la fois donc une prise de position sur l'environnement, mais en même temps quelque chose de très concret pour les électeurs, là, termes d'aide financière. C'est une approche qui peut être intéressante. En même temps, le PQ ne doit pas refaire l'erreur de 2018 d'arriver avec des chèques de l'aide au loan, des choses très, très concrètes, mais finalement qui font en sorte que pendant ce temps-là, on ne parle pas d'une grande vision
qui n'inspire pas.
Dans leur cas, celle de l'indépendance. Donc, est-ce que les partis vont pouvoir présenter l'environnement vraiment comme un grand projet ambitieux, emballant une vision et pas seulement des mesures très, très concrètes? C'est ce qu'il faudra observer.
C'est trouver le juste milieu, et pour revenir un peu sur ça peut même revenir sur le slogan. Qu'est-ce que tu penses, parce qu'on va recevoir Paul Saint-Pierre Plamondon cette semaine, qu'est-ce que tu penses du slogan « Le Québec qui s'assume pour vrai », un PQ qui s'assume par rapport à sa mission première, l'indépendance, mais qui est très bas dans les sondages, mais quand même assez haut dans le financement, une sorte de débalancement qui n'est pas très compréhensible pour certains, compréhensible pour d'autres. Mais est-ce que tu penses qu'un slogan tel quel, une campagne axée sur un Québec, sur un PQ qui s'assume à 100% au risque de disparaître à jamais à la suite des élections, est-ce que tu penses que c'est le bon choix ou ça fait un peu baroud d'honneur?
Ouais, ben c'est difficile à dire parce que c'est ça. Moi, je me suis attendu à quelque chose de plus, peut-être de plus clair sur l'indépendance. On voit que dans leur publicité, justement, ils disent les indépendantistes sont au Parti québécois, donc ils semblent être au niveau des pubs un petit peu là-dessus. On comprend le clin d'œil, le Québec qui s'assume, le PQ qui s'assume, donc qui s'assume comme indépendantiste. On voit le clin d'œil, mais c'est pas si clair que ça. Alors, je ne sais pas à quel point ce slogan-là parle au-delà des initiés là, qui peuvent voir le clin d'œil au fait d'assumer la position souverainiste. On s'assume comme étant de gauche, on s'assume comme étant nationaliste. Bon, des fois, un slogan sur le coup comme ça, moi, je trouve que ça ne frappe pas l'imaginaire tant que ça, mais peut-être que si c'est répété, on s'assume dans nos positions sur la langue, on s'assume pour l'indépendance, on s'assume pour la social-démocratie, pour des positions audacieuses sur l'environnement. Bon, à un moment donné, ça peut prendre du sens puis devenir un espèce de fil conducteur, ce qui idéalement un slogan peut être. Mais à ce stade-ci, ça paraît pas si évident.
Ça paraît pas si évident et surtout, il va falloir voir parce que la campagne commence assez rapidement. Normalement, elle va être déclenchée cette semaine. En pré-campagne, et tu en as déjà fait plusieurs au Parti québécois dans ton ancien rôle, en tant que conseil pour les différents partis, qu'est-ce que tu penses qu'il doit être fait dans la dernière semaine de pré-campagne avant que la campagne officielle commence et les différentes règles de campagne officielle, que ce soit en matière d'éthique, en matière de temps de parole, rentrent en jeu à 100%?
Ouais, ben je pense que c'est ça. Sur le plan du droit électoral, il y a possibilité de faire certaines dépenses avant le déclenchement de l'élection sans que ça entre dans les calculs là, pour les fins du plafond. Donc, il y a peut-être un petit blitz de publicité à faire dans la dernière semaine. Mais sinon, sur le fond, en fait, l'idée, c'est de, comme la campagne électorale officielle qui sera déclenchée là à la fin de cette semaine sera très courte parce que, sans doute, pense-t-on, parce que le gouvernement pense que c'est à son avantage, vu l'avance de la CAQ, là, de faire ça sur une plus courte période, ben, l'idée peut-être pour les partis d'opposition, c'est au contraire de la commencer dès maintenant, la campagne, et de faire en sorte que dans les faits, elle soit plutôt longue, ce qui, évidemment, peut leur profiter potentiellement. Puis je pense que c'est les quatre partis d'opposition qui sont sur cette ligne-là. Là.
C'est ce qu'ils ont fait, et on les voit quand même, on les voit présents sur le terrain, mais il y a peu de reprises dans les médias. Est-ce que ça les dessert ou c'est parce que le gouvernement arrive aussi avec ses propositions, avec sa présence médiatique, à pouvoir occulter cette présence sur le terrain des différents partis d'opposition, ou aussi c'est parce qu'il y a beaucoup trop de partis d'opposition et que ça bloque un peu le discours qui va à l'encontre du gouvernement en place?
Ben c'est ça, tant qu'on est en période vraiment avant la campagne électorale, effectivement, le gouvernement avait parfois cette possibilité de faire des annonces ou autres. On le voyait encore récemment avec M. Dubé, qui pouvait créer un déséquilibre. Ça va changer avec le début officiel de la campagne électorale, où là, toutes les parties devraient être un petit peu plus sur un pied d'égalité. Mais par contre, c'est vrai qu'il va y avoir une difficulté pour les partis d'opposition et pour les médias qui vont les couvrir de comment on couvre quatre partis d'opposition, comment on couvre une campagne avec cinq partis. Et on le voit ces jours-ci, là. Donc là, en fin de semaine, c'était peut-être plus M. Duhaime qui avait véritablement quelque chose avec son rassemblement, plus de 1000 personnes, un peu le PQ qui annonçait son slogan, mais là, les médias se sentaient obligés, une fois qu'ils avaient parlé du Parti conservateur, du Parti québécois, d'aussi parler de QS, qui faisait pas grand-chose, qui faisait du porte-à-porte, ou encore de parler des libéraux, bon, qui avaient une investiture avec un peu de monde, mais quand même, c'était plus limité, donc on sent que les partis se sentent obligés de traiter les quatre en même temps, puis là, ben, comme on manque toujours de temps, les médias, ils font à peu près 30 secondes sur chaque, là, donc, alors qu'il y aurait peut-être plus, peut-être que hier, c'était la journée Parti conservateur, Parti québécois, puis aujourd'hui, ça peut être QS, PLQ, donc je sais pas, ça sent pas évident pour les médias face à ce défi d'avoir cinq parties à couvrir. Puis ça va être intéressant de voir comment ils vont être à la fois équitables, mais en même temps pertinents, puis couvrir ce qui vaut la peine d'être couvert. Là.
C'est ça, pour les observateurs et les commentateurs, ça fait une nouveauté. Ça va être très intéressant à voir ça et très intéressant toujours à en discuter. Ben, merci beaucoup, Guillaume, d'avoir discuté avec nous de Politique ce midi. C'est toujours le fun de pouvoir te recevoir.
Ben oui, t'as un plaisir.
Merci à toi et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de cette chronique. Et quant à nous aussi, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de questions d'actualité format estival. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. Bonne journée à Radio VM.